Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.
Bonjour Stéphanie Do.
Bonjour.
Vous êtes élue députée En Marche de la 10e circonscription de Seine-et-Marne depuis 2017. Vous êtes rapporteur pour avis sur la partie logement de la Commission des affaires économiques pour l'examen du PLF 2021. Donc on est en pleine discussion sur les allers-retours avec le Sénat. Et vous avez travaillé sur la loi Élan et rédigé depuis 2017 quatre rapports pour avis sur les crédits consacrés au logement, avec une priorité, l'amélioration de la politique du logement, notamment pour les ménages modestes. Nous vous en félicitons. Dans le cadre de l'examen du PLF, vous défendez un amendement pour la prolongation du dispositif Pinel et PTZ, qui est très regardé de près par nos membres du Club de l'Accession à la propriété, et la restauration de l'aide personnalisée au logement accession. Ces moyens sont-ils suffisants pour améliorer la politique d'accès au logement pour les plus modestes ?
Oui, comme vous avez très bien dit dans vos propos préliminaires, effectivement, dans le cas d'examen du PLF 2021, j'ai bien défendu des amendements dont l'objectif principal est de permettre une relance du secteur bâtiment. Particulièrement impacté par la crise, couplé au besoin de pérenniser des solutions attractives et avantageuses pour les publics modestes, aussi impacté sévèrement par les conséquences économiques de la crise sanitaire. Ainsi, dans le but de soutenir le secteur du bâtiment, j'ai proposé effectivement par le biais de deux amendements un prolongement du dispositif Pinel jusqu'en 2024, mais également du PTZ jusqu'à 2022. Et je me réjouis que le gouvernement ait entendu mes arguments sur ces deux dispositifs.
Et les dates retenues sont bien celles que vous avez proposées,
oui,
ou il y a eu une négociation ?
C'est
je crois
tout
que tout le monde se réjouira
dates.
Parce qu'il y a eu quand même une grande chute de la construction et du logement. Et donc, c'est important de pouvoir respirer pour quelques années encore et de redonner de l'espoir et au bâtiment, comme vous l'avez dit, et au logement et à l'accession à la propriété de manière parallèle. Alors, concernant les logements sociaux, le gouvernement a annoncé dans son plan de relance de 500 millions d'euros sur les années 2021-2022 pour leur rénovation énergétique et leur réhabilitation lourde. Mais en parallèle, le PLF prévoit un prélèvement exceptionnel d'1,3 milliard d'euros sur la trésorerie d'Action Logement. Donc comment tout ça cohabite ensemble? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre mettre 500 millions sur la rénovation et enlever 1,3 milliard à la trésorerie d'Action Logement? Quel regard vous portez sur ces annonces?
Personnellement, je trouve que votre question elle est très, très pertinente. En ce qui concerne la problématique de la rénovation énergétique du parc social, bien qu'il en soit globalement en meilleur état que le parc privé, il comporte néanmoins toujours de nombreux logements peu efficaces du point de vue énergétique. En effet, plus de 330 000 logements sociaux sont toujours actuellement des passoires thermiques qui nécessitent une rénovation, ce qui représente tout de même quelque 8% du parc social. Cependant, comme vous le soulevez dans votre question, que pour la deuxième année consécutive, les parlementaires se retrouvent dans la position de devoir valider un prélèvement exceptionnel sur la trésorerie d'Action Logement. Cette façon de procéder, bien évidemment, sans privilégier des solutions de court terme. Par ailleurs, même si ces prélèvements sont fléchés vers le Fonds national d'aide au logement et qui compensent de moindres dotations de la part du budget de l'État, il n'en demeure pas moins qu'il représente une baisse de l'investissement net dans le logement. Si une nouvelle réforme devait voir le jour, j'estime qu'elle ne pourrait être acceptée par les parlementaires et le groupe Action Logement qu'à la seule condition qu'une co-construction et un dialogue vertueux organisé avec le gouvernement, permettant aux évolutions de se dérouler de manière sereine et concertée. En ce sens, je me réjouis aussi que le gouvernement et notamment la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, aient entendu ce souhait de concertation que je vais mis en avant dans mon rapport.
Mais je crois qu'il y a d'ailleurs une nouvelle présidente à Action Logement, Nadia Bouyer. Vous plaidez pour une concertation. Il n'y a plus qu'à faire une table ronde avec vous, la ministre Nadia Bouyer, pour essayer de voir comment... Parce qu'il faut que les parlementaires s'expriment et puissent être une sorte de poil à gratter dans cette nouvelle répartition des forces.
Mais vous savez, c'est notre rôle en tant que parlementaire. D'ailleurs, dès la séance, dans nos propos préliminaires, pour introduire en fait les conclusions de nos rapports, c'est vraiment le point qui revient presque dans chaque propos préliminaire de chaque rapporteur, comme quoi on est vraiment, sur les mêmes diagnostics et sur les mêmes préconisations.
Et donc vous avez dit quand même qu'une des priorités, je crois que tout le monde la partage, tant au titre bien évidemment du réchauffement climatique, c'est de régler le problème des passoires thermiques, parce que à la fin du mois, les gens ont un salaire, et si déjà une grande partie va passer, notamment à la veille de l'hiver, dans le chauffage parce qu'on a des passoires, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas la meilleure des solutions. Donc il y a un sujet écologique, il y a un sujet économique, il y a un sujet d'aide aussi aux bâtiments pour non pas construire, parce qu'il y a une baisse de la construction, et vous proposez en effet de revenir et sur le PTZ et l'allongement aujourd'hui du Pinel pour relancer la construction, mais aussi essayer de faire tout ce travail sur les passoires aujourd'hui chez beaucoup d'habitants pour leur redonner aussi une capacité de finalement de pouvoir d'achat en dépensant moins dans l'énergie et en isolant mieux. C'est bien ça l'idée.
Tout à fait, c'est bien ça l'idée. Je crois que vous avez bien résumé la situation.
Alors, parallèlement, il y a une annonce par les deux ministres, Emmanuel Wargon et Barbara Pompili, hier matin sur la RE 2020. Aujourd'hui, les sujets environnementaux sont de plus en plus cruciaux, en effet, dans la construction. Les détails de cette nouvelle réglementation sont arrivés hier. On a vu que la Fédération française du bâtiment, ce matin, d'un côté, considère que c'est tout à fait irréaliste d'atteindre ces objectifs, alors que de l'autre côté, la filière bois et des matériaux biosourcés se félicitent des signaux donnés pour la transition vers une construction vertueuse et la structuration de leur filière en France. Alors, est-ce qu'il faut opposer le bois et le béton ou chercher une complémentarité entre les deux? Et au moment où il y a une crise, finalement, pour tout le monde, à cette période de Covid, comment aider le bâtiment à se réinventer?
Je pense qu'en effet, les enjeux environnementaux sont de plus en plus prégnants dans le secteur de la construction. Nous devons avoir des bâtiments plus verts, c'est-à-dire qu'ils sont mieux isolés et consomment moins. C'est préférable pour l'écologie, mais aussi une mesure sociale, comme je disais à l'instant. Concernant la filière du bâtiment, le soutien du gouvernement pour réaliser des objectifs écologiques ambitieux et vigoureux, et les acteurs de ce secteur ne sont pas lésés seuls face à ces problématiques cruciales. En effet, dans le plan de relance, sur les 100 milliards d'euros déployés, sont prévus pour la seule rénovation énergétique, c'est 6,7 milliards d'euros. Cet investissement va permettre de lutter efficacement contre les logements dits passoires thermiques et donc améliorer bien sûr la qualité de vie de nombreux de nos concitoyens. De plus, il va favoriser la relance économique du secteur du bâtiment et ce grâce aux aides telles que MaPrimeRénov. Ces aides, comme vous le savez, encourageant les particuliers à se lancer dans les travaux de rénovation de leur habitation, ce qui a pour conséquence directe le recours aux acteurs du bâtiment. Ainsi, je ne pense pas que les exigences écologiques soient antinomiques avec la relance économique, bien au contraire, et de la même manière entre le bois et les bâtiments de construction habituels. Les éco-conditionnalités mises en place, par exemple dans le cas du RE de 2020, permettent non seulement de respecter nos engagements tels que l'accord de Paris en 2015 pour lutter contre le changement climatique, ambition réaffirmée dans la loi énergie-climat qui prévoit d'atteindre la neutralité carbone en 2050, mais également l'avènement d'une économie plus verte et vertueuse. En effet, l'introduction de la réglementation sera échelonnée de 2021 à 2020, avec ces trois jalons prévus, donc 2024, 2027 et 2030, qui constitueront autant de paliers de rehaussement des exigences. En parallèle, un label d'État qui s'est créé dans la foulée de la RE 2020 permettra à ceux qui le souhaitent, maîtrise d'ouvrage public ou privé, d'anticiper les futures exigences de la RE 2020 afin de montrer l'exemple et de préfigurer les bâtiments d'après-demain.
Donc il y a quand même un plan qui ne va pas être immédiat, qui va s'étaler sur quelques temps. D'un côté, on entend la Fédération du bâtiment dire « mais ça va être un surcoût ». De l'autre côté, certaines filières dans le biosourcé qui disent « mais non, on peut y arriver ». C'est vrai que grâce, je pense, à l'amendement que vous avez porté sur le Pinel, aujourd'hui le PTZ, peut-être que ça va être une aide à la relance de la construction, puisqu'il y a eu une baisse très très forte du nombre de logements en termes de construction neuve. Donc finalement, le marché, on va dire, entre les matériaux, a beaucoup souffert d'une dégradation tout simplement de la commande et de la construction. Alors qu'en soi, vous l'avez dit tout à l'heure, pour Action Logement, la ministre... Et il faut se mettre autour d'une table et se parler. Il n'y a peut-être pas d'antinomie, mais trouver une complémentarité entre le béton bas carbone, le bois qui a, bien évidemment, en termes de captation du carbone, une vraie valeur ajoutée extrêmement intéressante, et de plus en plus de gens s'intéressent à la construction bois ou du bois dans la construction. Comment voyez-vous et comment des parlementaires pourraient faciliter ce dialogue entre les filières ?
Vous savez, quand on est rapporteur, on auditionne tous les acteurs en fait clés du secteur et même sur notre territoire, on continue en fait ce travail d'échange avec des acteurs aussi au niveau de notre territoire. Donc, en fait, le travail qu'on a mené depuis 2017, notre méthode de travail ne change pas. Donc, on continue en fait à inviter en fait les acteurs concernés autour d'une table. En ce moment, c'est plutôt via les technologies comme vous voyez. Donc, autour d'une table et
on s'y habitue, mais on y arrive quand même. On n'a pas le choix.
Et voilà, autour d'une table, on peut discuter. C'est comme les amendements en fait. Vous amendez, vous savez pas quel sera le retour de tel ministre, mais le fait d'échanger, de débattre, permet justement à la fin de trouver un consensus qui répondra en fait aux besoins de chacun. Donc c'est dans le même démarche qu'il faudra continuer à poursuivre. Et donc je pense que prochainement il y aura des discussions avec les acteurs concernés, que ce soit le bois ou que ce soit d'autres matériaux de construction.
Écoutez, Stéphanie Hideau, je tenais à vous remercier infiniment d'avoir accepté cette interview. Je suggère que vous fassiez partie des parlementaires qui se mettront autour d'une table pour faciliter le dialogue entre une complémentarité des matériaux avec cet objectif qui a été fixé de 2015, en effet des accords de Paris qu'il faut tenir. Certes, aujourd'hui, il y a moins de pollution dans les villes, mais parce que c'est le confinement. Mais demain, tous ensemble, notamment dans la construction, il faut trouver les solutions d'une décarbonation à terme. Et la filière bois, je pense, peut s'y inviter, non pas en opposition, mais en complément de ce qui se fait déjà. Et je crois que si les parlementaires peuvent faciliter le dialogue entre les filières, les mettre autour d'une table, ce serait absolument formidable. Madame Stéphanie Hideau, c'est une suggestion que je vous fais avec vos collègues du groupe de travail sur la filière bois et puis ceux qui sont les rapporteurs de la filière immobilière. Je crois que s'il faut faciliter ce dialogue, j'espère que vous l'accepterez et qu'on pourra le monter ensemble avec le club de l'accession à la propriété.
En tout cas, c'est bien entendu, c'est bien noté et je m'en occuperai. C'est promis.
Merci Stéphanie Hideau, merci d'avoir accepté cet entretien. Très bonne journée à vous.
À vous aussi. Merci beaucoup.
Rencontre avec un élu, une émission de Marc Tessier-Dorfeuille, directeur général de Compublic, agence de communication institutionnelle, et délégué général du Club de l'Accession à la propriété.